Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Obligés de suivre les cours depuis chez eux, beaucoup d'étudiants se démotivent. Thierry, Jamy et Eva témoignent.
Et pour les aider, la Maison des étudiants propose des rendez-vous gratuits avec une psychologue du travail. Mélodie Gréot, chargée de mission dans cette structure, est notre invitée dans quelques minutes.
Les CM2 de l'école... Les CM2 de l'école Alphonse Daudet à Bourg-en-Bresse participent au Parlement des enfants, une opération nationale. À cette occasion, Xavier Breton, député de l'Ain, a répondu à leurs questions. Reportage.
Et tout de suite, l'actualité en bref.
Bourg en bref.
Les enseignants dans la rue la semaine dernière.
Mardi 26 janvier, une intersyndicale a lancé un appel à la grève. Une manifestation était organisée à Bourg-en-Bresse pour protester contre le peu de moyens donnés par le gouvernement aux enseignants. À Bourg-en-Bresse, le rendez-vous est donné place de la Comédie pour manifester. Environ 200 personnes sont sur place, des professeurs et même des élèves. Laurent est professeur dans l'Ain, il est membre du syndicat SNES-FSU, le syndicat majoritaire dans le secondaire.
Aujourd'hui, on a une vision de l'école de notre ministère et de ce cher ministre Blanquer qui a une vision tayloriste de l'école et les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins, sauf qu'on ne fabrique pas des voitures. C'est profondément révoltant de voir aujourd'hui ce système se mettre en place.
Ça fait déjà longtemps que les professeurs sont dans la rue, réclament des moyens. Cette crise, ça a accentué tout ça ?
Cette crise, elle met en lumière en fait un ministère au garde à vous, un ministère en fait où nous, on prend les informations sur BFM TV. C'est affligeant en fait, une impréparation totale. La crise sanitaire, elle met en lumière en fait le peu de réflexion que le gouvernement a de la chose éducation nationale en fait, c'est-à-dire les protocoles sanitaires magiques, le Covid n'existe pas dans les écoles. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant en fait, les incohérences et les absurdités qu'on peut entendre. Il faut que les enseignants puissent se retrouver, il faut qu'ils puissent rassurer les familles. Les enjeux, ils sont énormes parce qu'effectivement, les enfants dans les écoles, ils trinquent. Les familles, elles trinquent également. Cette situation anxiogène liée au Covid, on peut pas l'éluder. Mais on a besoin de faire du lien, on a besoin de rendre cohérent et avoir de la cohésion. Et aujourd'hui, la communication ministérielle, elle est tout sauf cohérente en fait.
Marie-Alix de Richemont, je suis co-secrétaire départementale de la CGT Éducation de l'Ain. Concrètement, en fait, on demande de pouvoir travailler, de faire notre travail correctement. Correctement d'une façon générale et dans le contexte de crise sanitaire d'autant plus. Surtout qu'on nous fait bien comprendre qu'on est essentiel pour garder les enfants, pour que les parents puissent travailler. Dans ce cas, il faut qu'on puisse le faire. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des plus petits groupes, donc des recrutements massifs, et puis une paye qui permette de vivre décemment, notamment pour les personnels les plus précaires. Des titularisations, un arrêt en fait de cette politique du bouchage de trous, du coup par coup et de tasser les élèves le plus possible dans des classes qui sont devenues beaucoup trop petites pour les contenir tous. Et voilà.
Lenny Gras, responsable fédéral du MNL. Je suis en première.
Antonin Nouvian, secrétaire général du mouvement national lycéen.
Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à cette manifestation ?
Donc c'était un mouvement de base pour les profs et on a décidé de les rejoindre. On a fait un appel national, donc on se mobilise un peu partout en France. Et du coup, on les rejoint pour les mêmes raisons. Un protocole sanitaire insuffisant, avec des grandes fenêtres ouvertes pendant l'hiver, etc. Un manque de moyens. Donc on demande une embauche de plus de profs pour des classes moins surchargées. Et que le ministre, enfin, nous écoute après des mois à nous ignorer.
Et donc comment ça se passe le quotidien en ce moment dans un lycée ?
On est en distanciel une semaine sur deux, donc une semaine on va en cours et une semaine on n'y va pas. Et étant donné qu'il n'y a pas vraiment de budget en plus ou quoi que ce soit, nos profs essayent de nous aider, mais vu qu'ils travaillent toutes les semaines pendant que nous on n'est pas là des fois, et ils peuvent pas réellement être à notre écoute tout le temps. Et si on n'a pas un espace de travail chez soi pour étudier tranquillement, et ça reste extrêmement compliqué.
Et du côté des BTS ?
Le problème, c'est qu'on a quand même très peu d'informations. On est souvent les derniers à être informés par le ministère. Parfois, on est obligé de les réclamer, d'ailleurs, ces informations. Et c'est ça, surtout, qui provoque l'anxiété chez nous. Mais de manière générale, chez tous nos camarades, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on se sent pas prêt parce qu'on sait pas à quoi s'attendre, concrètement, avec les épreuves qui arrivent à la fin d'année et les décisions du ministre qui tombent au compte-gouttes et qui ont l'air d'être prises au petit bonheur, la chance, entre guillemets.
Cette manifestation avait aussi lieu dans le contexte du Grenelle des enseignants, censé apporter des réponses aux demandes des personnels de l'éducation nationale. Il doit s'achever fin février. Le 4 février, autre manifestation, interprofessionnelle cette fois, pour dénoncer les inégalités sociales notamment. Le rendez-vous est donné devant la préfecture à 10h.
Ce même jour, le 4 février, le don du sang s'installe en ville pour la journée.
C'est ce jeudi entre midi et 17h30 sur la place de la Comédie à Bourg-en-Bresse. L'établissement français du sang en appelle encore à votre solidarité. Les besoins en sang sont toujours importants. C'est uniquement sur rendez-vous et vous pouvez appeler le 04 74 21 63 97.
De nouvelles réglementations à la frontière suisse.
Il faut maintenant avoir une raison valable pour passer la frontière, un motif personnel de santé ou un motif professionnel. Le passage est aussi soumis à un test PCR qui doit être négatif et récent de moins de 72 heures. Pas besoin de test pour les résidents frontaliers et les personnes qui travaillent en Suisse notamment.
Nouvelle mesure du gouvernement pour les commerces cette fois.
Dans l'Ain, aucune grande zone commerciale n'est concernée par la fermeture, mais une jauge de 8 mètres carrés par personne doit être respectée dans chaque commerce.
Des volailles de Bresse cuisinées pour les plus démunis.
Le week-end dernier, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, la CA3B, a donné 1 000 000 de repas. C'est grâce au budget des Glorieuses de Bresse. L'événement n'avait pas pu avoir lieu en 2020. Samedi matin, devant la mairie de Bourg-en-Bresse, un stand est dressé. Il est tenu par quelques élus de la CA3B. Une bénéficiaire des Restos du Cœur est venue avec son compagnon. En échange de bons donnés par l'association, elle retire ses 2 repas.
On est venu parce qu'on a pas assez pour joindre les fins de mois. Même à partir du 15, il n'y a plus rien. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça. Alors on va souvent, une fois tous les 15 jours, le dimanche, on va récupérer nos colis à la maraude. Heureusement qu'on a ça rue d'arrêt parce que, bon, j'ai droit au restaurant du camp, mais malgré tout, ça ne fait pas des trucs comme ça. C'est fabuleux.
Donc là, qu'est-ce que vous avez eu ?
Un repas pour manger avec entrée, plat, dessert. Super, c'est Noël.
Au menu, des produits faits sur notre territoire, une façon d'aider aussi la filière alimentaire. Thierry Moiroux est élu à la CA3B et en charge du projet.
Le principe, c'était de faire travailler la filière de la volaille de Bresse, qui a été impactée, comme beaucoup de gens, par la situation qu'on vit aujourd'hui. Et de travailler aussi avec les restaurateurs locaux. Donc on a appelé 30 restaurateurs du Grand Bassin de Vie, 16 ont répondu présent. Et donc à ces restaurateurs-là, on leur a acheté un repas à base de poulet de Bresse. C'était le principe que le plat principal soit du poulet de Bresse pour faire travailler la filière.
Sur un peu plus de 1000 repas, environ 600 sont pour les bénéficiaires des associations caritatives. Les autres sont donnés à une partie du personnel soignant de Fléria et aux jeunes précaires. Le budget est de 35 000 euros pour cette initiative.
Le budget est pris sur le budget qu'on met traditionnellement dans les Glorieuses de Bresse, qu'on n'avait pas pu organiser cette année. Donc c'est un budget qu'on a de toute façon au départ qui était fléché sur la filière de la volaille. Donc c'est aussi le principe de faire travailler un peu tout le monde et qu'on touche un public qui traditionnellement ne va pas au restaurant. Puis apporter un peu de solidarité dans les temps qui courent, ça fait du mal à personne.
C'était Thierry Moiroux, élu à la CA3B. Les repas non remis ce week-end seront distribués par les associations d'aide aux plus démunis.
Un concert virtuel à la Tannerie.
Pour la 2e fois, la salle de spectacle propose un concert visible depuis chez soi. C'est ce vendredi 5 février à 20h sur Facebook. Le duo Saadji sera en direct de la Tannerie. Il propose un concert de musique ethnique et électronique. Le prix est libre.
L'invité de Radio B.
Mélodie Gréau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission à la Maison des étudiants de Bourg-en-Bresse. On vous donne la parole juste après avoir écouté les témoignages d'Eva, Jamy et Thierry, étudiants à l'Université Lyon 3 au campus de Bourg.
Je m'appelle Eva, je suis étudiante en L1 droit à l'université Jean Moulin, Lyon 3, à Bourg-en-Bresse. En ce moment, je vis chez mes parents, donc j'ai la chance d'être en maison avec mes parents à côté de Bourg-en-Bresse.
Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Comment se passent en ce moment vos études?
En ce moment, c'est très compliqué d'être seule à la maison. J'ai la chance d'être avec mes parents, mais on se voit que le soir. Donc de 7h à 19h le soir, je suis seule. C'est difficile d'être devant un ordinateur toute la journée, devant un écran, des professeurs parfois pas toujours compréhensifs, pas toujours là pour nous. Ils mettent beaucoup de temps à nous répondre par mail. On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
Et est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire un peu votre semaine, comment ça fonctionne, si vous fixez des horaires?
Alors, on se lève le matin un peu plus tard. Ça peut être un avantage aussi. On peut soulever cet avantage-là de ne pas avoir les trajets, donc de pouvoir dormir un peu plus. 8h du matin, tout de suite, devant son ordinateur, jusqu'à environ 14h, donc 6h d'affilée, avec une pause un peu à midi de 10 minutes. Parfois des pauses de 5 minutes entre les heures, mais c'est très compliqué. 14h, on mange en vitesse grand V, 30 minutes, et on reprend les cours. On apprend par cœur, et le soir, on va se coucher, et le lendemain, c'est la même chose.
Et donc, vous avez tous vos cours comme si vous étiez à la fac, mais en visio, c'est toujours le même emploi du temps?
Exactement. En fait, on se rend compte aussi que les professeurs se permettent très des choses qui ne se permettraient pas en présentiel, donc déplacer des cours parfois le samedi matin, en rajouter un peu plus avec l'argument de dire c'est pour pas que vous lâchiez les cours, alors on vous en rajoute, ou alors faire durer un peu plus le cours, ou alors parfois donc on accède aux cours via des liens pour aller sur WebEx, la plateforme. Parfois, c'est les mauvais liens, ils vont commencer le cours sans les étudiants. Donc, en présentiel, ce serait jamais arrivé un prof qui commence devant un amphi vide. Donc, on remarque que oui, les cours, globalement, on a les mêmes cours, mais avec du relâchement aussi de la part des professeurs.
Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à tenir?
Le plus difficile, c'est la solitude. D'autant plus qu'on est en première année et en fait, on n'a pas eu la chance de pouvoir faire des week-ends d'intégration, des soirées, de se faire beaucoup de contacts. Même si on a les réseaux sociaux, hein, on a un groupe Facebook Lyon 3, c'est plus difficile de commencer un cursus universitaire seul, sans vraiment avoir de contact et d'être seul en fait. La solitude, c'est le plus difficile vraiment.
Donc vous êtes arrivé donc en première année donc dans cette université. Est-ce que vous avez eu le temps d'avoir des connaissances, des amis? Comment ça s'est passé?
Alors on a eu une petite soirée d'intégration, bon avec tous les gestes sanitaires, etc. Mais elle n'a pas pu se dérouler comme les autres années, c'est-à-dire où souvent il y avait des jeux pour apprendre à connaître les autres étudiants ou même des sorties. Après, c'est vrai qu'on avait le sport à la fac toujours en septembre. Donc, grâce au sport, j'ai eu la chance de me faire des copines. Et du coup, on est toujours en contact aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs, parce que parfois, c'est vrai que tenir 6 heures devant les cours, on se partage un peu le travail. Peut-être qu'il y en a qui vont aller le matin, prendre les cours, d'autres l'après-midi, s'échanger. Mais je sais que c'est pas la chance de tous les étudiants. Tout le monde n'a pas eu cette chance de pouvoir se faire des amis dès le départ.
Est-ce que vous avez des aides, que ce soit des collectivités locales, de votre université?
En théorie, alors on reçoit beaucoup de mails avec « si vous voulez, vous pouvez consulter une psychologue, une heure qui sera payée, tout frais payé, etc. » Certains professeurs nous donnent leurs mails aussi si on peut échanger, mais c'est vrai que c'est difficile. En fait, on n'est pas non plus très bien accompagné. Ça ne suit pas énormément de ce côté-là.
Qu'est-ce que vous imagineriez pour améliorer les choses malgré le contexte sanitaire?
J'imaginerais déjà consolider cette idée de pouvoir retourner petit à petit à la fac. Peut-être avoir des entretiens téléphoniques avec nos professeurs pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Aussi alléger les cours, toujours avoir le même nombre de cours, mais peut-être plus répartis au plus possible, parce qu'enchaîner 6 heures de cours devant un écran, c'est quelque chose de très très difficile. Donc peut-être faire 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, dans la mesure du possible.
Là, vous avez eu quelques partiels. Comment ça s'est passé?
Pour la fac de Bourg, on les a tous passés en présentiel. D'autres facs en France les ont passés en distanciel. Encore une fois, là, on a trouvé un déséquilibre total entre les facs qui passent en distanciel et sans mentir, les étudiants avec tous leurs cours sous les yeux, en trichant, et nous qui devons les passer tous en présentiel. Autre question, on s'est dit pourquoi les cours, on les fait tous en distanciel, et là pour les partiels, on arrive à trouver les moyens de les faire en présentiel. C'est que ces moyens, ils sont accessibles, on peut arriver à faire les choses en présentiel vu qu'on les fait, les partiels, en présentiel. On trouve une part d'injustice, en fait. Voilà.
Et donc, en résumé, comment vous vous sentez en ce moment ?
Le moral, il a clairement baissé hein, par rapport à l'année dernière. Aussi sur le corps, ça se voit, on fait moins de sport, on est forcément plus triste, on mange pas comme avant, il y a des jours où on va se réfugier dans la nourriture, on va manger déséquilibré, des jours où on n'aura pas envie de manger, enfin psychologiquement, et même ça devient physiquement éprouvant.
Jamy, vous avez eu encore moins de cours en présentiel cette année que les premières années, vous êtes en deuxième année de droit, comment vous vous sentez ?
On se sent un peu mieux que l'année dernière à la même période, mais j'irai pas jusqu'à dire que ça va bien non plus, loin de là. Je pense que ce qui est le plus dur moralement, c'est la situation globale, c'est cette impression d'incompréhension justement et de mépris souvent par rapport à notre situation. Je pense que c'est ça le plus dur à vivre tous les jours.
Là, vous sentez qu'il n'y a pas du tout de soutien au niveau étatique ?
On a eu des solutions qui sont arrivées récemment, mais est-ce qu'elles vont réellement aider la situation ? Je ne pense pas. Je sais que les étudiants en première année ont la possibilité de retourner un peu en présentiel pour leurs cours en TD. Après, à voir comment c'est appliqué, les étudiants qui sont à plusieurs centaines de kilomètres de leur fac et qui ont cours en CM distanciel juste avant, comment ils font pour être d'une minute à l'autre ? Sur les lieux de la fac. Donc bon, voilà, je pense qu'on essaie de ramener des solutions rapides, inefficaces et inadaptables. C'est des leurres, on essaye de faire comme si on s'y intéressait. Dans la réalité, on ne s'y intéresse pas. On attend qu'il y ait des tentatives de suicide, de défenestration, pour qu'on se dise « Ah bah tiens, c'est vrai qu'il y a toute une partie de la population qui est en souffrance depuis un an, qui ne dit rien ». Qui a lancé à multiples reprises des appels à l'aide et qui aujourd'hui n'en peut plus. Mais on a attendu aujourd'hui, malheureusement.
Est-ce que vous, personnellement, vous avez des idées, des envies pour améliorer la situation ?
La première solution qu'il faudrait prendre, ce serait déjà nous permettre d'avoir un interlocuteur au niveau du gouvernement qui soit capable et qui ait envie de discuter avec nous, de comprendre les circonstances et de nous répondre franchement et honnêtement. Donc je pense que la solution première, ce serait que Madame Vidal démissionne. Je pense que c'est le réel problème aujourd'hui. On a une coupure nette et franche qui s'augmente jour après jour. Et tant que ça restera, il n'y aura pas de réelle solution.
Je m'appelle Thierry Léon-Tranchant, j'ai 21 ans et j'habite à Bourg depuis maintenant 2 ans.
Vous êtes donc étudiant en histoire à l'université donc Jean Moulin à Bourg-en-Bresse.
C'est ça.
Donc vous vivez seul dans votre appartement. Comment vous vivez cette situation où vous n'allez plus à la fac et vous êtes seul chez vous ?
Le fait de ne plus aller à la fac, c'est vachement gênant pour travailler parce que je fais partie des jeunes qui ont eu un appart et qui ont vécu seuls loin de leurs parents très tôt. Donc j'ai pris les mauvaises habitudes. C'est un peu compliqué de se mettre au travail chez soi en sachant qu'on a beaucoup de divertissement, faire un petit peu n'importe quoi d'autre que de travailler en fait.
Mais donc là vous sentez que vous décrochez de la fac ou ça va encore ?
Avec le retour des TD en semi-présentiel, je me raccroche un petit peu, mais dès qu'on est sur du cours en distanciel, c'est même pas la peine quoi.
Vous n'arrivez plus du tout à suivre les cours en visio quoi ?
Non, non. Ah non, non, c'est... La porte ouverte à aller sur YouTube, Netflix, n'importe quoi.
Est-ce que c'est dur d'être seul chez soi le soir, vu que vous avez vu personne la journée ?
Mais c'est vrai que parfois le manque de compagnie se fait un peu sentir plus que d'habitude, particulièrement le soir.
Et comment vous faites pour y remédier ? Vous avez des astuces ?
J'appelle des amis, j'envoie des messages, j'appelle ma famille, mes parents, n'importe qui serait disponible pour discuter, ne serait-ce que 5-10 minutes, pour dire d'avoir des nouvelles, quoi.
Au niveau de l'État, qu'est-ce que vous pensez de sa gestion de cette crise du côté des étudiants ?
C'est du très 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 grand n'importe quoi, parce que supprimer l'accès aux cours pour les étudiants qui sont âgés, donc plus aptes à faire attention à ce qu'ils font, et imposer justement le présentiel à des, à des jeunes enfants qui, eux, n'ont pas forcément, je vais dire, la présence d'esprit, mais le mot est peut-être un peu mal choisi, de se tenir à distance, de pas trop rentrer en contact, enfin, de faire vraiment attention à ce genre de problème, ben, c'est beaucoup plus difficile pour nous, qui avons beaucoup de travail en dehors, en plus des cours, d'être éloignés, en fait, de la fac. Et je pense surtout à mes collègues qui sont à Mâcon ou qui sont en périphérie de Bourg, qui n'ont pas le permis ou autre personne dans ce cas-là.
Et donc, est-ce que vous avez des idées pour améliorer la situation ?
Le retour des cours en présentiel, avant tout. Au moins pour les TD et qu'on ne soit pas divisé comme c'est à l'heure actuelle. Au moins pour ça, parce que c'est vraiment important. C'est des cours où on est obligé d'être et le fait d'y être en distanciel et de ne pas être concentré, c'est comme si on n'y était pas finalement.
Mélodie Gréau, vous êtes chargée de mission à la maison des étudiants de Bourg-en-Bresse. On vient d'entendre ces témoignages d'étudiants. Est-ce que vous recevez aussi beaucoup d'appels de ces jeunes ces derniers temps ?
Oui, alors j'ai commencé à recenser pas mal d'appels effectivement. Alors principalement à mon niveau sur le logement, les jobs étudiants et sur la précarité. Donc,
c'est-à-dire des étudiants qui n'arrivent plus à payer leur loyer et à vivre tout simplement au quotidien.
Oui, absolument.
À peu près combien d'étudiants vous ont contacté ?
Alors là, sur le mois dernier, à peu près 35. Et je travaille aussi également avec tous les bureaux des étudiants. Donc je recense beaucoup leurs demandes.
Et ça, c'est vraiment une situation inédite.
Oui. Et je vais même aller plus loin dans l'inédit. Je reçois également parfois des appels concernant les addictions. Et je pense que tout ça est lié à l'isolement. Ils sont aujourd'hui dans une situation, une vraie détresse. Et je pense qu'ils ont besoin d'être entendus.
Et quand vous parlez d'addiction, addiction à quoi alors ?
Addiction aux produits, principalement.
Principalement tout ce qui est stupéfiants, oui. Alcool ?
Oui, absolument.
Et donc, ils vous appellent et quand ils vous appellent, ils vous disent quoi ?
Eh bien, ils m'expliquent simplement qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation à laquelle ils ne trouvent pas de solution. Et c'est principalement financier, en réalité. Sachant que pour l'isolement, on a mis en place un soutien psy avec ma collègue Majda Belghazi, qui travaille...
On en reparlera dans quelques minutes.
D'accord.
Oui. Donc vous disiez, c'est principalement des problèmes financiers,
oui.
Vu qu'ils n'ont plus de petits boulots étudiants.
Oui, absolument. Notamment avec la fermeture des restaurants, par exemple. Alors moi, je leur conseille de solliciter les agences de travail temporaires, qui ont quand même des besoins. Par exemple, pour les fêtes, j'ai reçu 35 offres, principalement dans l'agroalimentaire.
Et ça, après, vous avez eu des échos d'étudiants qui ont pu avoir ces postes ?
Non, pas forcément d'échos derrière. C'est vrai qu'ils ont le réflexe de venir jusqu'à moi pour trouver des solutions. Et une fois qu'ils les ont, malheureusement, j'ai peu d'échos.
Oui, donc il n'y a pas de suivi. Vous donnez des solutions, mais après, il n'y a pas d'accompagnement régulier avec ces mêmes personnes.
Alors si elles reviennent, et d'ailleurs je les encourage à revenir, hein, puisque ma mission principale à la maison des étudiants, c'est de les accueillir et de les accompagner. Donc bien sûr, je leur donne l'information qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à revenir vers moi.
Donc l'idée vraiment, c'est qu'ils appellent et qu'ensuite il y a un suivi. Comme ça, vous pouvez leur donner les différentes clés pour s'en sortir.
Oui, absolument. J'aimerais vraiment faire de la maison des étudiants un lieu ressource pour eux et sur plusieurs thématiques.
Et c'est donc principalement ces étudiants qui ont des difficultés financières, des étudiants, comme on a aussi entendu dans les témoignages, qui n'ont pas du tout de famille à proximité.
Oui, souvent ils sont seuls, très très seuls. Et effectivement, c'est vrai qu'en temps normal, par exemple, à la maison des étudiants, j'organise des événements inter-étudiants en début d'année. Ils ont aussi, eux, la possibilité dans chacun de leurs établissements d'organiser leurs propres événements. Et donc ils se rencontrent. C'est un élément très important, finalement, de la vie étudiante. Et aujourd'hui, ils en sont privés, c'est vrai.
Vous avez rencontré les représentants des étudiants de Bourg la semaine dernière. Quel était le but de cette réunion ?
Alors, cette réunion avec la sénatrice de l'Ain, Mme Blatrix Conta, le but, c'était vraiment de leur donner la parole. Qu'ils puissent exprimer tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils pensent, toutes leurs inquiétudes, qui sont aux yeux de tous très légitimes.
Et donc, qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion ?
Alors l'isolement, la précarité, surtout. Et là, j'organise à nouveau une réunion, donc mercredi, avec tous les représentants des étudiants, pour qu'on puisse ensemble vraiment mettre en place des solutions qui pourraient les aider.
Et qu'est-ce qu'a répondu Madame la Sénatrice à leurs difficultés ?
Alors elle les a surtout écoutés. Le but, c'était un vrai temps de parole pour pouvoir recenser ces difficultés-là.
Et après, donc, peut-être des propositions de voir qu'est-ce qu'elle peut faire remonter au sommet de l'État.
Oui, après, ce sera effectivement son travail au Sénat, bien sûr.
La maison des étudiants, vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt, propose depuis quelques jours un soutien psychologique pour les étudiants du département. Qu'est-ce qui est prévu ?
Alors, absolument. Donc, on l'a mis en place un jeudi dernier. Donc, pour le moment, c'est un petit peu trop tôt pour vous donner des chiffres et de savoir comment ça fonctionne, bien sûr. Dans l'idée, c'est une écoute téléphonique, des rendez-vous en présentiel sur prise de rendez-vous. Et on réfléchit avec ma collègue Majda, pourquoi pas des temps de parole en présentiel, en collectif, des ateliers. Je pense qu'on va faire évoluer cette solution-là.
Parce que c'est vrai que continuer un suivi par téléphone quand leur manque principal, c'est les liens. C'est vrai que d'essayer de multiplier les liens, les interactions, c'est aussi son objectif.
Oui, absolument. C'est même notre objectif. Vous voyez, par exemple, la réunion que j'organise mercredi soir, je l'organise en présentiel. Parce que c'est une de leurs demandes à laquelle j'accède. Ils ont besoin de ce lien-là. Ils en sont beaucoup trop privés en ce moment.
Au-delà du soutien psychologique, comment les aidez-vous à sortir de l'isolement ? Vous parlez de ces rencontres,
oui.
Mais pour les autres étudiants, au-delà de leurs difficultés, comment créer du lien dans cette situation ?
Alors, je leur propose notamment, quand j'ai des demandes, le bénévolat. Je sais qu'il y a l'association Tremplin qui recherche beaucoup de bénévoles. Je les envoie aussi vers France Bénévolat, parce que je me dis que finalement, c'est le meilleur moyen pour eux de réussir à sortir. Alors parfois, c'est vrai, ça peut être le soir, donc avec le couvre-feu, c'est problématique. Mais sur le week-end, samedi ou dimanche, ça peut fonctionner.
Et pour sortir de la précarité ?
Alors, l'épicerie solidaire. Je sais qu'il y a un débat autour du resto U sur Bourg. Les étudiants n'y ont pas forcément accès correctement. Par contre, on a une épicerie solidaire qui propose 70% d'économie quand même, pour eux. C'est non négligeable, et ça, je leur dis tout le temps.
Est-ce qu'ils ont connaissance de cette épicerie solidaire ?
Alors, pas tous. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un étudiant, je lui en parle.
Et pour terminer, donc, Mélodie Gréau, quels conseils donneriez-vous aux étudiants ?
Je leur dirais de rien lâcher, de continuer à se faire entendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos collectivités et les établissements, conjointement, réfléchissent à des solutions concrètes pour eux. Ils ont été entendus. Et voilà, il ne faut pas décrocher, il ne faut rien lâcher.
Et comment ils peuvent contacter la maison des étudiants ?
Alors sur nos réseaux sociaux, Jeune 01 principalement, ils peuvent également téléphoner à la MIF de l'Ain et me demander.
Mélodie Gréau, merci.
Merci à vous.
Vous êtes chargée de mission à la maison des étudiants de Bourg-en-Bresse. Et en plus de la maison des étudiants, d'autres solutions sont proposées pour les jeunes des campus de Bourg-en-Bresse, Inès.
L'antenne de l'Université de Lyon 1 à Bourg, qui regroupe des IUT, a lancé une épicerie solidaire. Une structure créée avec l'intermédiaire de la Croix-Rouge et qui bénéficie des denrées de la Banque alimentaire. On y trouve des produits d'hygiène, des conserves ou des boissons par exemple. Et l'épicerie solidaire est ouverte à tous les étudiants sans exception. Du côté de Lyon 3, des dispositifs ont déjà été mis en place comme le soutien psychologique, le tutorat pour les jeunes en décrochage ou le prêt d'ordinateur par exemple. Localement, sur le campus de Bourg-en-Bresse, un sondage en ligne a été lancé par des représentants étudiants pour mieux connaître les besoins de leurs camarades. Déjà 300 réponses ont été récoltées. Un groupe Facebook appelé Vie étudiante Bourg-en-Bresse a aussi été créé pour garder le lien entre les jeunes et diffuser les ressources qui leur sont proposées. Un partenariat entre le campus et le point accueil écoute jeunes va être mis en place. À partir du 11 février, il y aura une permanence pour les étudiants tous les jeudis après-midi. D'autres pistes sont en cours de réflexion. Les collectivités locales et des personnes retraitées notamment ont proposé leur aide à l'université.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
D'abord, commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
Leur projet de loi peut être débattu à l'Assemblée nationale. L'opération Le Parlement des enfants se déroule chaque année depuis 25 ans dans toute la France. Le principe, chaque classe de CM2 sélectionnée rédige une proposition de loi. La classe de CM2 de l'école Alphonse Daudet, dans le quartier de la Croix-Blanche à Bourg, participe à l'édition 2020-2021. Adepte de ce type de projet, Rémi Arnaud, leur enseignant, a rédigé la candidature. Et l'aventure a commencé juste avant les vacances de Noël. À chaque édition, son thème pour 2021, c'est l'alimentation durable et équilibrée. Ce lundi matin, les élèves attendent leur invité. Xavier Breton, député de l'Ain, a répondu à leur invitation. Bon alors, vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
Stressée.
Stressée ? Vous avez envie de lui poser quoi comme question ?
Plein de questions. Comment elle va pour aller à Paris ? Dans quel transport ? Et comment il fait quand il arrive à Paris ? Est-ce qu'il dort là-bas ou il part après à Bourg ?
Sa réaction quand il a appris qu'il était député.
Pour toi, c'est quoi un député ? Il sert à quoi ?
C'est des personnes qui discutent d'une loi. Et quand ils sont tous d'accord, bah, la loi peut être diffusée. Enfin, faut la respecter, quoi.
Et qui peut me parler de la loi que vous êtes en train de préparer ?
C'est le droit de choisir son plat à la cantine. C'est qu'on peut choisir entre du poisson, par exemple, de la viande, ou pas de poisson, et d'autres choses comme ça.
9h, Xavier Breton, accompagné de son assistante parlementaire, entre dans la classe. Les élèves se lèvent, le silence s'installe.
Donc, je m'appelle Xavier Breton, j'habite à Bourg-en-Bresse, et donc je suis député de l'Ain. Alors vous êtes, dans quelles années vous êtes né à peu près ? C'était 2009-2010. Alors moi je suis député depuis 2007. Alors vous voyez, avant même que vous naissiez, c'est pour ça que je me suis dit ça ne doit pas être loin. Alors qui commence ?
Combien de lois avez-vous voté ?
Je pense qu'on doit bien voter une centaine de lois par an.
Quel est le texte de loi dont vous êtes le plus fier ?
C'est un texte qui n'est encore pas voté. C'est une proposition de loi que j'ai faite, qui vise à ce que dans les périodes d'urgence, comme nous avons actuellement avec la crise sanitaire, eh bien on ne regarde pas que l'aspect économique, qu'on ne regarde pas que l'aspect sanitaire, la santé, c'est important tout ça, hein, bien sûr, mais regardons aussi ceux qui sont autour, parce qu'il y a des effets.
Nous réfléchissons actuellement sur une proposition de loi pour permettre à chacun d'avoir le choix entre deux plats. Qu'en pensez-vous ?
L'idée est intéressante. D'abord, pourquoi elle est intéressante ? On parle d'éducation, mais il faut qu'il y ait aussi une éducation au goût. Aujourd'hui, je vais prendre ça, ou bien, ah ben ça, j'avais pris ça l'autre fois, donc je vais changer, etc. Le deuxième point, c'est que ça permet aussi de mieux prendre en compte les goûts de chacun, en disant, ben, il y en a qui aiment mieux tel type de viande, tel type de, qui préféreront poisson, etc. Après, comme toujours, il y a une bonne idée, mais il faut toujours se méfier de ce que ça peut amener comme effet qui n'est pas obligatoirement positif. Il y a certaines choses que, étant enfant, on n'aime pas. Tels les épinards, ça n'a jamais été un grand plat qui rencontre autant de succès que les frites. On est d'accord. Bon. Et donc, il faut faire attention aussi à ce que ça ne soit pas dans le choix épinard ou burger. Le deuxième point, il faut aussi faire attention, ne pas penser qu'à soi. Il faut se dire que dans l'assiette, il y a des gens qui ont travaillé pour avoir les produits. Donc il faut faire attention aussi, parce que dans ce choix, on ne défavorise pas trop tel secteur d'activité ou tel autre. Ça aussi, c'est important. Donc c'est bien, l'idée est bonne au début, mais il faut que justement ce choix qui est à faire, il soit bien en respectant. Et comment ça peut se faire, par exemple ? Eh bien, c'est qu'entre deux plats, si on dit c'est un jour avec de la viande, on fasse le choix entre deux viandes. Si on dit on fait découvrir des légumes, on fait découvrir un choix entre des légumes. Et donc, si vous avez une interrogation et tout, n'hésitez pas à nous appeler.
Merci.
Bonne continuation, bon courage. Tout le monde a pu poser sa question et c'était des questions très intéressantes. À bientôt.
Qu'est-ce que tu retiens de cet échange ?
Qu'il aime bien déjà son métier. Il avait dit qu'il avait 8 enfants, oui, c'est ça. et qu'il a, il voit pas vraiment sa famille.
Bah, c'était bien, c'était intéressant à écouter et que c'est pas tous les jours qu'on peut voir un député ou lui poser des questions et lui parler.
Monsieur le député, un petit retour après cet échange avec les enfants. Qu'est-ce que les enfants peuvent apporter aux députés ?
Ben, ils apportent le regard qui est sur la chose publique, comme on dit. C'est dire, dans leurs questions, on voit qu'il y a des choses très concrètes qui les intéressent, c'est-à-dire ben, comment on fait pour aller à Paris, combien de temps on y va, enfin, etc. Mais ils ont aussi des sujets qu'ils ont sur le cœur. J'en ai vu deux, par exemple, aujourd'hui, qui étaient, par exemple, sur les violences familiales et sur la lutte contre la pollution. Donc, c'est des sujets qui sont au cœur de la société, mais qui sont aussi partagés. Quand eux, on voit que ça les intéresse.
Qu'est-ce que vous pensez de leur projet, de proposition de loi ?
Je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle est à la fois sur une idée simple. Il faut toujours se méfier des idées un peu trop compliquées. Alors, il ne faut pas que ce soit trop simple, il ne faut pas que ce soit simpliste, mais au sens de dire, aujourd'hui, les questions des menus dans les cantines, dans les restaurants scolaires, posent question. Voilà. À la fois en termes d'environnement, en termes de choix par rapport aux différentes cultures, etc., on sent que c'est un sujet sensible. Et donc, qu'ils l'abordent, c'est super. Et en plus, c'est aussi une manière de se rendre compte que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est qu'en abordant ce sujet-là, on soulève d'autres problèmes et qu'il n'y a pas de réponse simple. Alors, c'est pas une raison pour ne rien faire. C'est simplement de dire on n'est pas uniquement dans la logique de penser à soi. Et si ça, déjà, on le fait, voilà, ça sera super d'avoir, sur cette idée simple, de pouvoir trouver des dispositifs qui répondent un peu à ce contexte, à ces contraintes, parce que c'est un peu quand même ça, on ne fait pas ce qu'on veut, toujours ce qu'on veut. Là, je trouve que ça sera un très très bon exercice.
Allez, bonne continuation.
Vous dites au revoir, s'il vous plaît.
Après plusieurs semaines de réflexion, le résultat.
Article unique. Dans toutes les cantines scolaires et des accueils de loisirs, les enfants doivent avoir le choix entre deux plats principaux au moins un jour par semaine.
Dans toutes les cantines scolaires et des accueils de loisirs, les enfants doivent avoir le choix entre deux plats principaux au moins un jour par semaine.
Le projet de loi des CM2 de l'école Alphonse Daudet est envoyé cette semaine à l'inspecteur d'académie. Courant mars, des jurys vont se réunir. Après ce premier vote, il restera une proposition de loi dans chaque académie. Début mai, jury national composé entre autres de députés. 5 propositions de loi seront sélectionnées. Le dernier mot revient aux enfants. Tous les élèves participants devront voter en ligne avant la fin mai. La classe lauréate sera annoncée mi-juin. Parmi les anciennes propositions de loi, aucune d'une école de l'Ain, aucune d'ailleurs dans l'académie de Lyon. 4 propositions de loi du Parlement des enfants sont devenues des lois de la République. La dernière du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection d'effets de mauvais traitements à enfants. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90 FM. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite ?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.